litres, 2,53€ le paquet d'essuie-tout absorbant double épaisseur Netto. Les enfants, on est sauvés!
Netto, on gagne tous à payer moins cher. Netto. Pack de 6 rouleaux, 34% de remise immédiate. Plus d'infos sur netto.fr.
Vous écoutez Europe 1. Il est 19h.
Europe 1 soir.
19h, 20h.
Hélène Zélani.
Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner jusqu'à 20h dans Europe 1 Soir. Un tournoi de foot organisé pour Gaza à Fontenay-sous-Bois et une bien étrange mise en scène, on vous raconte dès le début de ce journal. Gaza et les Palestiniens, les insoumis ne parlent que de ça dans leur campagne des européennes. Mais après la candidate Rima Hassan, la députée Mathilde Panot est convoquée par la police pour apologie du terrorisme. On reviendra d'ailleurs sur la stratégie du parti de Jean-Luc Mélenchon juste après ce journal avec Louis Dragnel, le chef du service politique d'Europe 1. Le maire de Béziers, Robert Ménard, instaure un couvre-feu pour les moins de 13 ans. Ce sera pareil à Nice. Nous appellerons Christian Estrosi à 19h30. Vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21. 5 migrants, dont un enfant, sont morts en tentant de traverser la Manche. Nous serons à Vimereux, dans le Pas-de-Calais. Et à 19h45, nous parlerons de cette loi qui vient d'être adoptée en Angleterre pour expulser les migrants illégaux vers le Rwanda. Dans ce journal, un accord de fin de carrière à la SNCF qui annule quasiment la réforme. Le sais-tu, compte épargne temps universel, c'est pour bientôt. Et puis Emmanuel Macron le jure, il va se baigner dans la Seine d'ici les JO pour qu'elle soit propre. Une station de traitement des eaux vient d'être inaugurée près de Paris. Bonsoir Marlène Duret.
Bonsoir Hélène.
La tendance météo.
Alors soleil et vent en Méditerranée, beaucoup de nuages ailleurs, avec même des passages pluvieux du sud-ouest au nord-est. Demain, quelques flocons à basse altitude, plutôt sur la partie nord-est, et dans une ambiance qui va rester froide en matinée et encore bien fraîche en journée. Des prévisions complètes à la fin de votre journal.
À tout à l'heure. Un tournoi de foot dans une salle municipale, ça paraît banal a priori. Ce tournoi-là, organisé par des collectifs pro-palestiniens samedi à Fontenay-sous-Bois, en banlieue parisienne, devait sensibiliser les jeunes à la cause. En fait, William Molinier, il s'est ouvert sur une mise en scène plus que douteuse.
Oui, c'est surtout l'entrée en scène des joueurs qui pose question. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on voit des jeunes posés dans le gymnase, deux équipes de 5 joueurs, tous ont un keffieh enturbanné autour de la tête, le visage est entièrement dissimulé et au milieu du groupe, le drapeau palestinien est tenu à chaque coin par 4 jeunes filles mineures, sans doute moins de 13 ans. Cette mise en scène a pu choquer car elle reprend certains codes des vidéos diffusées par la propagande du Hamas ou d'autres factions terroristes présentes dans la bande de Gaza. Cette vidéo a été relayée sur les réseaux sociaux par le parrain du tournoi, un rappeur local. Les organisateurs, eux, sont des associations pro-palestiniennes, Urgence Palestine ou encore France Palestine Solidarité. Elles n'ont pas souhaité pour leur répondre aux questions d'Europe 1, tout comme le maire communiste de Fontenay-sous-Bois qui a pourtant mis à disposition le gymnase municipal. D'autres tournois de ce type sont déjà programmés en région parisienne, la semaine prochaine à Ivry-sur-Seine, fin mai à Gennevilliers, et ces collectifs entendent poursuivre leur mobilisation tout au long de l'été dans une trentaine de communes partout en France. Pour l'instant, et à notre connaissance, aucune plainte n'a été enregistrée à ce sujet au parquet de Créteil. Ni le préfet de police, ni le ministre de l'Intérieur n'ont émis de signalement à la justice.
William Molinier, la cause palestinienne, elle est au cœur de la campagne de la France insoumise pour les prochaines élections européennes. Sauf que certains propos, certains écrits tombent sous le coup de la loi. Mathilde Panot, chef des députés LFI, est d'ailleurs convoquée par la police pour apologie du terrorisme. Pour quelle raison, Alexis de la Fontaine ?
Eh bien, les enquêteurs souhaitent entendre Mathilde Panot clarifier le communiqué de la France insoumise du 7 octobre qui rejetait le caractère terroriste de l'attaque du Hamas, des propos qui peuvent tomber sous le coup de la loi, selon l'avocate Sarah Saldeman.
Il faut vraiment la réunion de deux éléments, à savoir un élément matériel et un élément moral. Là, Mathilde Panot expliquera si, selon elle, elle a voulu valoriser le terrorisme ou pas, même si pour nous, on peut bien sûr se poser la question, mais d'un point de vue juridique, ce n'est absolument pas certain. C'est probable, mais pas certain.
Mathilde Panot risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende pour apologie du terrorisme. Une convocation inadmissible, répond son avocate Jade Doucelin.
Que les propos de Mme Panot puissent faire l'objet d'un débat politique, c'est une chose. Qu'ils puissent faire l'objet d'une convocation judiciaire pour apologie terrorisme, c'est insensé et encore une fois, c'est à notre sens une atteinte extrêmement grave à la liberté d'expression et nous sommes sur une dérive du parquet extrêmement dangereuse et préoccupante.
Après Rima Hassan et Mathilde Panot, d'autres membres de la France Insoumise pourraient être convoqués très prochainement pour des propos similaires comme Jean-Luc Mélenchon ou Daniel Obono.
Et juste après ce journal, on va revenir plus longuement sur la stratégie de LFI avec le chef du service politique d'Europe 1, Louis de Raguenel. Comment lutter contre la violence des jeunes? Le maire de Béziers, Robert Ménard, instaure un couvre-feu pour les moins de 13 ans dans certains quartiers de sa ville, valable dès maintenant et jusqu'à la fin septembre. Le maire de Nice, Christian Estrosi, veut en faire autant. Il va réinstaurer une mesure qui avait déjà existé entre 2009 et 2020. Il sera en direct sur Europe 1 pour nous dire quelle en a été l'efficacité. Rendez-vous à 19h30 et comme toujours, vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21. La violence de certains jeunes, parlons-en, à Toulouse, un collégien de 14 ans est ce soir en garde à vue. Il a agressé un de ses professeurs en plein cours, il l'a menacé de mort. Vous êtes allé devant ce collège où on ne parle que de ça, Charles Huillier.
Oui, l'agression a eu lieu hier, vers 11h30, en cours de techno. Le professeur réprimande l'élève à cause de son comportement jugé irrespectueux. C'est à ce moment-là que tout dérape, explique Dylan, qui connaît bien les mises en cause.
Le professeur lui a pris par le col, mais pas de manière violente. Il s'en suit quatre claques de l'agresseur sur le professeur. Donc à ce moment-là, il lui a dit, je cite, « Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire ?» Donc les élèves l'ont incité à sortir de la classe.
L'élève a depuis été interpellé, il sera déféré demain pour violence et menace de mort. De son côté, le professeur s'est vu accorder 2 jours d'ITT. Il est évidemment en arrêt de travail et bénéficie désormais d'une protection fonctionnelle de la part de l'Académie.
Charles L'Huillier à Toulouse pour Europe 1. L'enquête se poursuit sur la blessure au thorax du chanteur Kenji Girac. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire alors qu'il affirme s'être tiré dessus par accident en manipulant un pistolet automatique acheté dans une brocante. Selon son manager, il a été opéré et il est tiré d'affaire. Ils étaient beaucoup trop nombreux sur un petit bateau qui devait gagner l'Angleterre. Un nouveau drame de migrants dans la Manche ce matin au large de Vimereux, dans le Pas-de-Calais. Cette tentative de traversée a viré au drame. Malgré l'intervention rapide des secours, 5 personnes sont mortes, dont une petite fille. Lionel Gougelot, vous vous êtes rendu sur place. Il faut dire que les migrants étaient plus d'une centaine sur un bateau qui pouvait n'en accueillir que la moitié.
Oui, d'ailleurs, autant de candidats à la traversée sur un seul et même bateau, c'est du jamais vu. Et quant à quelques centaines de mètres de la plage, l'embarcation a subi une panne moteur. Il y a eu vraisemblablement un mouvement de panique. Des migrants sont tombés à l'eau. Les secours arrivés sur la zone les ont repêchés, mais ont découvert des passagers inanimés. 5 d'entre eux n'ont pas survécu. 3 hommes, une femme et une fillette. Bernard, un touriste, a assisté aux opérations de secours sur la digue de Vimereux.
Les médecins urgentistes sont sortis des ambulances pour essayer de soigner les gens. Ils ne sont pas parvenus apparemment à réanimer tout le monde parce que j'ai vu des gens transportés sur les civières avec des plastiques sur eux, donc c'est vraiment des gens décédés. Dramatique. Comment les gens peuvent un petit peu arriver au bout d'un très très long voyage et puis perdre la vie ici, quoi. C'est bien malheureux.
Une 50aine de migrants restés à bord de l'embarcation ont redémarré le moteur et ont repris la mer vers la Grande-Bretagne, mais ce drame s'ajoute aux 5 morts déjà survenus ici en janvier, ce qui suscite la colère du maire de Vimereux, Jean-Luc Dubel.
On a besoin de plus de services de police, gendarmerie, police nationale. 10 morts sur ma commune, 14 morts sur le territoire. Là, on doit réagir au niveau des frontières. Je sais pas, refiltrer au niveau des frontières, c'est pas possible de les laisser venir et puis les envoyer à la mort.
Ce midi, ils étaient encore plusieurs dizaines de migrants à errer dans les environs, tous en attente de nouvelles opportunités de traverser et toujours aussi déterminés malgré le danger et ce drame survenu ce matin.
Lionel Gougelot à Vimereux pour Europe 1. Depuis le début de l'année, plus de 6000 personnes ont tenté la traversée de la Manche sur des canaux de fortune, soit une hausse de plus de 20% par rapport à la même période l'an dernier. Aujourd'hui, le Parlement britannique a adopté une loi permettant d'expulser les demandeurs d'asile illégaux vers le Rwanda. On va en reparler vers 19h45 avec l'avocat Philippe Fontana. Il est l'auteur du livre La vérité sur le droit d'asile aux éditions de l'Observatoire. Il est 19h08 sur Europe 1. Dans un instant, cet accord sur les fins de carrière à la SNCF qui limite sérieusement les effets de la réforme.
Europe 1 soir. Et maintenant avec Antargaz, parlons énergie des territoires, gaz liquide et biopropane.
Bonjour Céline Rivier, alors vous animez le blog de cuisine Pépite de Noisette et vous avez créé plusieurs recettes de cuisine à la plancha réalisées avec la bouteille de gaz Elfi biopropane Antargaz. Alors quels sont les atouts de la cuisine à la plancha?
J'essaye de faire des recettes pleines de saveurs, un petit peu originales avec beaucoup de légumes. Et l'avantage de la cuisson à la plancha au gaz biopropane, c'est que les aliments ne touchent jamais la flamme et on a une bonne maîtrise de la température et de la cuisson de ce qu'on qu'on est en train de préparer. Donc on conserve à la fois les saveurs et les propriétés des aliments.
Et quels sont les autres avantages de la cuisson au gaz bupropane ?
Alors, en fait, ce sont exactement les mêmes avantages que la cuisson au gaz classique. Et il faut savoir que j'essaie de développer des recettes qui limitent notre impact sur l'environnement. Et ce qui est bien avec le gaz biopropane, c'est qu'il est issu de sources renouvelables et donc il permet de réduire nos émissions de carbone.
Merci Céline Rivière, à bientôt.
Merci et rendez-vous mardi prochain avec Antargaz. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Europe 1 soir,
jusqu'à 20h,
Hélène Zélani.
19h10 sur Europe 1, une fois n'est pas coutume, tous les syndicats de la SNCF ont signé le plan de la direction pour accompagner les salariés en fin de carrière. Et pour cause, Barthélémy Philippe, ce plan est des plus avantageux.
Oui, au point qu'il détricote en grande partie la réforme des retraites pour les cheminots. Exemple, avec les contrôleurs, ceux qui ont été embauchés au statut avant 2020 ont vu leur âge de départ décalé de 57 à 59 ans, tandis que les contractuels recrutés récemment passaient de 62 à 64 ans, comme les salariés du privé. Mais la direction a plié face aux menaces de grève en mai et lors des Jeux Olympiques. Le nouveau dispositif de cessation d'activité anticipée permettra aux contrôleurs de partir un an et demi plus tôt tout en conservant 75% de leur salaire. Une revanche contre la réforme des retraites selon Julien Trocaz, secrétaire fédéral Sudrail.
Évidemment, on n'a pas anéanti cette réforme injuste et brutale. Mais par contre, on montre bien qu'on l'a affaiblie. Si on a voulu nous mettre à genoux avec cette réforme, on a riposté et on a riposté de la meilleure des manières avec cette négociation de fin de carrière à la SNCF.
Et selon une estimation de la Fondation IFRAP, ce nouveau dispositif de retraite anticipée pourrait coûter jusqu'à 300 millions d'euros par an à la SNCF, une entreprise publique financée par l'État. En 2022, la SNCF a coûté 20 milliards d'euros aux contribuables français.
Et en tout cas, Barthélémy, pour les usagers de la SNCF, c'est une bonne nouvelle puisqu'il n'y aura pas de grève pour les ponts de mai. Du côté des aiguilleurs du ciel, il faut s'attendre à une journée très perturbée jeudi avec de nombreuses annulations de vols et ce n'est pas fini. Le principal syndicat des aiguilleurs menace d'une nouvelle grève pour le pont de l'Ascension les 9, 10 et 11 mai prochains. Parlons vacances justement. Si en tant que salarié, on pouvait les cumuler ces vacances sans limite de temps, même si on change d'entreprise, c'est en gros l'idée du CETU, le compte épargne-temps universel. Plusieurs syndicats et une organisation patronale se sont mis d'accord, ce qui veut dire que la mesure devrait faire partie du prochain projet de loi de travail à l'automne. Alors ce CETU, Margot Faudéré, ça marche comment ?
Imaginez un livret d'épargne, mais au lieu d'y verser de l'argent, vous y versez des jours de congé, et ce, tout au long de votre carrière. Car votre livret vous suit quand vous changez d'entreprise. C'est une réserve de jours de congé mobilisable quand vous le voulez, comme vous le voulez, même si évidemment, des règles sont prévues pour encadrer le dispositif. Yvan Ricordeau, secrétaire général adjoint de la CFDT, en expose quelques-unes.
On a prévu une règle d'ancienneté entre 12 mois et 36 mois pour pouvoir utiliser son CETU. Et il y a aussi, et c'est complètement normal, des règles de prévenance de l'employeur. Un salarié qui s'abstente a toujours une nécessité de prévenir son employeur en avance. Et donc, on a défini aussi ces règles de bonne gestion.
Le CETU est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Il devrait donc figurer dans le projet de loi travail prévu pour l'automne prochain. Et cela ne devrait pas plaire au patronat. Le MEDEF et la CPME y sont clairement opposés, car ils estiment qu'il risque de perturber l'organisation au sein des entreprises. Embaucher un salarié qui a déjà plusieurs jours de congé en stock nécessiterait de le remplacer, loin d'être évident pour une petite structure.
Margot Faudéré, vous parliez de promesses de campagne. Voilà une autre promesse, celle de Jacques Chirac en 1990. On devrait enfin pouvoir se baigner dans la Seine en 2024. Plusieurs épreuves des Jeux Olympiques se disputeront d'ailleurs dans le fleuve parisien, et cela en partie grâce aux stations de traitement des eaux pluviales. Justement aujourd'hui, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, inaugurait celle de Champigny-sur-Marne. Quel est le principe, Cyril de la Morinerie ?
Eh bien, grâce à cet ouvrage, qui a nécessité plus de 3 ans de travaux et coûté plus de 50 millions d'euros, la Marne, qui se jette dans la Seine, sera beaucoup plus propre. À l'intérieur du bâtiment, un bassin de 8000 m3, l'équivalent de 3 piscines olympiques. L'eau est filtrée, puis renvoyée 500 mètres plus loin dans la Marne, explique le président du département du Val-de-Marne, Olivier Capitagno.
Cette eau est traitée par UV, c'est-à-dire par une solution naturelle, ce qui permet d'éliminer à la sortie 99,9% des bactéries. Donc on rejette dans la Marne une eau qui est totalement propre, est bonne pour la baignade.
Rendre baignable la Seine qui ne l'est plus depuis 1923, mais aussi la Marne depuis 1970. C'est l'objectif du gouvernement, insiste le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu.
Dans la région la plus dense de France, là où on a le plus d'habitants qui vivent à proximité de fleuves, qu'on puisse faire en sorte que ces fleuves deviennent les lieux naturels de rafraîchissement pendant l'été, c'est aussi un endroit de brassage, de convivialité.
Et dans un an, il y aura 32 sites de baignade, dont 3 dans Paris intramuros.
Cyril de la Morinerie qui va donc se baigner dans la Seine. Les marchés financiers maintenant avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Paris termine encore en hausse.
Et on repasse les 8100 points, plus 0,8% à 8105 points pour le CAC 40. Côté valeurs, ST Microélectronique, c'est Legrand. On profité de notes positives d'analystes. Renault termine en hausse également, petite hausse de 0,4% après un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu. Et puis la déception, elle est pour OVH Cloud. Le spécialiste du cloud a revu en baisse ses prévisions de revenus et c'est un plongeon de 17% ce soir. Du vert sur les marchés en Europe, Londres gagne 0,3%, plus 1,6% pour Francfort, plus 1,7% pour Amsterdam, plus 0,8% pour le CAC 40 à Paris, 8105 points.
Merci Claire Lemaître. La météo maintenant, Marlène Duret. Demain, ce sera plus humide qu'aujourd'hui.
Et oui Hélène, on va conserver ce courant de nord, donc bien frais, dans lequel va circuler une perturbation en provenance de l'Angleterre. Elle va glisser cette nuit du nord-ouest de la France vers le sud-est et on va la retrouver demain matin. Eh bien, de la Nouvelle-Aquitaine à la région Grand Est, en passant par l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté également. Et sur cette diagonale, eh bien, il faut prévoir quelques pluies demain. Quelques flocons aussi, des 500 mètres d'altitude dans le Jura, 300 mètres dans le Morvan, 300 également en Lorraine, ce qui veut dire que de nombreuses villes verront un petit peu de neige tomber en fin de nuit ou demain matin, par exemple entre Langres, Nancy et Metz. L'après-midi, la limite plus neige va remonter un petit peu et puis les pluies vont s'estomper, quelques éclaircies vont percer. D'une manière générale, il y aura beaucoup de nuages demain, sauf près de la Méditerranée, où le soleil s'annonce généreux du Roussillon à la Provence.
Mais il y aura aussi un peu de vent.
Et oui, près de la Grande Bleue, Mistral et Tramontane vont rester soutenus, avec des rafales de l'ordre de 70 ou 80 km à l'heure, jusqu'au département du Var d'ailleurs. Et puis le vent de nord-nord-ouest va rester sensible entre les Hauts-de-France, le bassin parisien, la Champagne et la Bourgogne.
La hausse des températures, en tout cas, ça n'est pas pour tout de suite, a priori.
Il faut attendre jeudi après-midi pour sentir le début d'une hausse, en tout cas pour les maximales. Les vents vont ensuite tourner à l'ouest. À partir de vendredi, on va carrément basculer dans un courant de sud-ouest, donc moins de froid. Pour autant, ça ne sera pas forcément très agréable, puisqu'on attend des perturbations pluvieuses qui vont succéder ce week-end et en début de semaine prochaine. Mais pour les températures demain, parce que ça nous intéresse demain, donc on reste couvert. L'après-midi, prévoyez 8 degrés à Besançon. 10 à Strasbourg, Lille et Rouen, 12 à Paris, Lyon et Clermont-Ferrand, 13 à Tours, Toulouse, 14 à La Rochelle et Montélimar et puis 15 à 18 au bord de la Méditerranée.
Donc les sandales, ça n'est pas pour tout de suite.
Non, pas tout de suite.
Merci Marlène, il est 19h17 sur Europe 1, on est ensemble jusqu'à 20h, on est ravis d'être avec vous dans un instant. On va revenir sur la stratégie de la France insoumise. Toujours plus de provocations, est-ce que ça paye? Vos questions, vos réactions au 01 80 20 39 21.
Europe 1 Soir. Jusqu'au 30 avril, découvrez les séries limitées Audi Black Edition sur les modèles A1, Q2, Q3, A4 Avent et Q5 à partir de 370 euros par mois avec apport. Profitez d'équipements d'exception comme le pack esthétique noir exclusif, le volant et les jantes Audi Sport et la caméra de recul sur l'Audi A1. Rendez-vous chez votre partenaire Audi ou sur Audi.fr.
Offre en LLD pour une Audi A1 Sportback 30 TFSI S-Tronic Black Edition. Premier loyer de 800 euros réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Et pour notre anniversaire, du 2 au 29 avril, on va vous gâter.
Ah oui? Pourquoi? C'est aussi mon anniversaire?
Et oui! Chaque jour, foncez à notre borne de jeux en magasin pour tenter de gagner des e-cartes cadeaux jusqu'à 50 euros. Et en plus, avec ma carte Netto, tentez de gagner un séjour en famille.
Ne m'en dites pas plus, je fonce chez Netto.
Netto, on gagne tous à payer moins cher. Netto.
Jeu avec obligation d'achat dès 25 euros. Règlement sur netto.fr.
Bonjour. Vous connaissez le dicton? On n'a jamais deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. Et quand on est pro, la première impression, c'est aussi son véhicule. Alors venez vite découvrir la nouvelle gamme utilitaire Peugeot. Démarquez-vous avec son design distinctif et sa modularité exceptionnelle. Et avec près de 20 systèmes d'aide à la conduite, vous arriverez chez vos clients dans les meilleures conditions pour faire une deuxième bonne impression. Et jusqu'au 30 avril, Peugeot vous offre 3 mois de loyer pour tout achat d'un nouvel utilitaire en crédit bail. C'est le moment d'en profiter.
Voir conditions en point de vente et sur Peugeot.fr.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, il est à 1,29€.
L'artichaut ?
Eh oui patron, en ce moment chez Lidl, il est à 1,29€.
1,29€ l'artichaut ? Ils sont encore et toujours moins chers que nous !
Et avec l'application Lidl Plus, il y a moins 15%, soit 1,10€ l'artichaut. Oh, ils sont archi chauds.
Et toi t'es archi...
archi mal, eh oui, je sais patron.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. Catégorie 1, origine Espagne. Plus d'informations sur Lidl.fr. Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente ?» Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi, je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Source, l'Automobile Magazine 2023.
Bien, j'ai parcouru votre CV, c'est très impressionnant. 12 ans d'expérience dans de grands groupes, comme dans une PME. Vous êtes expert en comptabilité, marketing, sécurité informatique, ressources humaines. Vous parlez anglais, chinois, indien. Vous pouvez commencer quand ?
Désolé, le mouton à cinq pattes n'existe pas. Mais heureusement, sur APEC.fr, vous trouverez des solutions et de l'aide pour recruter le candidat qui correspond à votre TPE-PME. Rendez-vous sur APEC.fr, c'est gratuit.
APEC, donnez de l'élan à votre avenir.
Europe 1 soir, 19h-20h.
Hélène Zélani.
Il est 19h21 sur Europe 1. Merci à ceux d'entre vous qui nous rejoignent. On va s'intéresser aux prises de position, aux déclarations des membres de la France Insoumise, puisqu'après Rima Hassan, c'est au tour de la députée Mathilde Panot d'être convoquée par la police pour apologie du terrorisme. Selon Jean-Luc Mélenchon, c'est un événement sans précédent dans l'histoire de notre démocratie qui a pour but de protéger un génocide. Bonsoir Louis Dragnel.
Bonsoir Hélène, bonsoir à tous.
Merci d'être en direct dans Europe 1 soir. Tout le monde le sait, vous êtes le chef du service politique d'Europe 1. À quoi joue Jean-Luc Mélenchon ?
Alors, bon, il y a plusieurs sujets. On l'a déjà dit un petit peu, hein, mais Jean-Luc Mélenchon, depuis le début de cette campagne européenne, est dans une stratégie de victimisation. Il fait campagne exclusivement sur la question Israël-Hamas, sur le conflit au Proche-Orient, et donc force tous les partis politiques, tout le monde à se positionner par rapport à ces sujets qui, je fais une petite digression, n'ont absolument rien à voir avec les débats européens. C'est-à-dire que moi, c'est la première fois, pardon, je continue la digression, c'est la première fois depuis beaucoup de campagnes européennes que je vois des débats qui n'ont vraiment strictement aucun lien avec les élections européennes. Souvent, les débats nationaux se télescopent avec les débats autour des élections européennes, mais là, vraiment, ça n'a strictement rien à voir. Et donc, on voit bien que Jean-Luc Mélenchon poursuit une stratégie d'aller conquérir un électorat dans les banlieues, islamisé, radicalisé. Tout ça, vraiment, est conscientisé, tout ça est assumé, même au sein de la France insoumise. Donc, c'est un objectif électoral. Donc, ce qui devait arriver à un moment arrive. C'est-à-dire qu'à force de vouloir entretenir la confusion entre l'antisionisme, l'antisémitisme, systématiquement en prenant la défense, parfois d'ailleurs du Hamas, de la population de Gaza contre l'oppresseur israélien, c'est le discours de Jean-Luc Mélenchon, en oubliant totalement que c'est Israël qui a été attaqué, qui a été victime d'une attaque terroriste. Voilà, tout ça a un but politique qui est de récupérer un électorat très précis, très particulier, dont on vient de parler. Et donc Jean-Luc Mélenchon se pose systématiquement en victime du système. Et donc là, il a trouvé l'argument suprême, c'est-à-dire qu'il dit, il sous-entend, que Emmanuel Macron envoie la police, en réalité, empêcher, entraver l'action à la fois de Mathilde Panot, donc qui est la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, et aussi entravée Rima Hassan, donc, qui est une militante politique de La France Insoumise, qui est candidate aux élections européennes, et qui elle-même a déclaré que pour elle, le Hamas n'était pas une organisation terroriste.
Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est elle aussi convoquée par la police. On a entendu dans le journal l'avocate de Mathilde Panot qui parle d'une atteinte extrêmement grave à la liberté d'expression. C'est le grand mot là.
Alors, c'est le grand mot, mais si on regarde bien quel est le périmètre de la liberté d'expression, la liberté d'expression ne permet pas de faire la promotion de délits.
Faire l'apologie de terrorisme, c'est un délit. Faire l'apologie de l'antisémitisme, c'est un délit. Et donc, tous les amoureux de la liberté d'expression, parfois, on a l'impression qu'en fait, la liberté d'expression, on peut absolument dire toutes les horreurs qui nous traversent l'esprit, qui nous passent par la tête. Eh bien non, la liberté d'expression, justement, elle est garantie. Si on veut préserver la liberté d'expression, il y a besoin d'un cadre. Et donc, vous pouvez pas faire l'apologie de viol, l'apologie de violence, de la même manière, l'apologie voilà, du terrorisme et l'apologie de l'antisémitisme. Eh bien, ne s'inscrivent pas dans le cadre de la liberté d'expression.
Est-ce que vous diriez que les dérapages de Jean-Luc Mélenchon sont volontaires? Par exemple, on a beaucoup parlé de sa comparaison du président de l'Université de Lille avec un nazi la semaine dernière. Est-ce que tout ça, ça rentre dans ce cadre-là? Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que ça lui échappe?
Bien sûr, souvenez-vous de Mathilde Panot qui avait parlé d'Elisabeth Borne comme d'une rescapée parce que son père était rescapé des camps de concentration. On se souvient aussi de Jean-Luc Mélenchon qui avait reproché à Yael Braun-Pivet, qui est d'origine juive, d'être allé camper en Israël. Tout ça, le champ lexical, alors c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, mais le champ lexical des camps de concentration s'est invité aussi dans la campagne. Jouant toujours sur les mots, c'est-à-dire camper, oui, on peut aller camper, sauf qu'il s'agit d'Yael Braun-Pivet et en Israël. Rescapé, oui, on peut parler de rescapé, de quelqu'un d'un rescapé d'un naufrage, sauf que Elisabeth Borne, en plus, c'est un point sensible pour elle, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Elisabeth Borne, son père a vécu des atrocités dans les camps de concentration et c'était un rescapé. Et donc tout ça est fait, si vous voulez, Jean-Luc Mélenchon est beaucoup trop intelligent pour que ce soit simplement le fruit du hasard et tout son état-major, pas tout son état-major d'ailleurs, parce que ça suscite des divisions. Alexis Corbière n'est pas à l'aise typiquement avec ça. Je pense à Monsieur Ruffin aussi.
François
Ruffin, qui lui très rapidement d'ailleurs s'est désolidarisé de Jean-Luc Mélenchon au sein de la France Insoumise pour dénoncer un peu cette dérive et expliquer que dans le conflit qui oppose Israël au Hamas, c'est pas deux armées qui se combattent, un groupe terroriste contre une armée légitime qui a été attaquée.
Mais est-ce que cette stratégie politique, elle fonctionnera, elle fonctionne dans les urnes de ce qu'on sait des intentions de vote?
Alors, ce qu'on observe, c'est que depuis le début de ces élections européennes, globalement, alors c'est une campagne qui est compliquée pour la gauche, pour les gauches, parce que vous savez, au sein de la NUPES, il y a la France Insoumise, il y a le Parti Socialiste, en plus, qui présente une liste avec Place Publique, donc portée par Raphaël Glucksmann, et puis il y a les écologistes, il y a aussi les communistes. C'est une élection qui est toujours un peu compliquée, avec des jeux de vases communicants. Lors des dernières européennes, c'était les écologistes qui avaient profité un peu du vote utile des élections européennes. Mais on voit que, globalement, le discours de Jean-Luc Mélenchon porte dans les quartiers, il y a une traduction électorale, il y a des intentions de vote derrière tout ça. Alors, depuis hier ou avant-hier, cette stratégie, il y a quand même un petit doute parce qu'il y a un sondage qui est sorti et qui montre que Monsieur Ruffin...
Ah, le fameux sondage secret qui a été publié dans Libération.
Exactement, merci de...
Oui, alors je l'avais noté parce que, en fait, ce sondage montre que François Ruffin est le mieux placé à gauche en 2027. Il aurait 29% au premier tour contre 18% pour Jean-Luc Mélenchon.
Voilà, et ça c'est très, très intéressant. Non pas, on ne va pas faire de la politique fiction alors que l'élection présidentielle a lieu dans très longtemps, mais ça montre que la ligne portée par M. Ruffin, qui n'est pas du tout une ligne indigéniste, qui n'est pas du tout une ligne racialiste, antisémite ou antisioniste, eh bien en fait elle parle plus aux électeurs de la France insoumise que la ligne portée actuellement par Jean-Luc Mélenchon et dans laquelle s'enfonce totalement tout son entourage, Mathilde Panot et puis tous les députés qui sont autour de lui.
Alors, on n'a plus beaucoup de temps, juste une dernière question, Louis Dragnel. On sait qu'hier, Jean-Luc Mélenchon était à Sciences Po Paris. Il y a quelque chose d'un peu ambigu parce que son meeting est interdit à l'Université de Lille. Là, autorisé hier soir à Sciences Po Paris. Rima Hassan sera à Sciences Po aussi demain.
Absolument.
On a l'impression que c'est pas très clair, cette réponse de l'État.
Eh bien, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas clair. On peut pas avoir dans un département, celui du Nord à Lille, une conférence qui est interdite dans une université, un meeting ensuite qui est interdit, et de l'autre côté à Sciences Po. Je suis d'accord avec vous, et je pense qu'il faut que l'État harmonise sa réponse, il faut qu'il y ait une réponse uniforme, sinon ça permet aussi à Jean-Luc Mélenchon d'entretenir le fait que il y a une cabale politique contre lui, que le droit, que lui, si vous voulez, quand vous appliquez pas la même décision selon l'endroit où vous vous trouvez, je parle pour l'État, eh bien vous perdez forcément du crédit. Et en plus, quand on ajoute à ça, parce que ce qui s'était passé à Lille, quand le préfet avait interdit le rassemblement politique de Jean-Luc Mélenchon, c'est tellement sensible qu'il ne peut pas le faire sans l'aval du ministre de l'Intérieur ou sans même des conseillers à l'Élysée. Et ce qui était très bizarre, c'est que le soir même, Emmanuel Macron avait appelé à la liberté d'expression, liberté d'opinion. Et donc, ça donnait l'impression qu'Emmanuel Macron désavouait son préfet. Et je pense que c'était absolument pas le cas, puisque le préfet n'avait pas agi seul. Donc, voilà, il y a un enjeu très important aujourd'hui de clarification concernant les meetings dans lesquels est faite la promotion de l'antisionisme.
Merci beaucoup Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. On va se retrouver juste après une pause. Nous serons avec le maire de Nice, Christian Estrosi. Il va remettre un couvre-feu pour les moins de 13 ans. Pour réagir, vous pouvez nous appeler au 01 80 20 39 21.
Europe 1 soir. Europe 1.
Bonjour, c'est Christophe Ondelat.
Ondelat raconte.
Je sais que ça vous passionne, et moi aussi, je vais vous raconter des histoires de médecins légistes. En l'occurrence d'un médecin légiste belge assez célèbre, Philippe Boxeau, qui raconte régulièrement dans des livres qui font un carton quelques-unes des affaires sur lesquelles il a eu à travailler.
Ondelat raconte.
On se retrouve demain, de 14h à 15h, sur Europe 1.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
À tous ceux qui montrent une photo de leur chien ou de leur chat, pour que vous disiez « Oh, il est mignon !» et pour qu'ils répondent « Il a 3 ans, à la base c'était celui de mes voisins et... » Pardon Pascal, mais personne t'a demandé, on voulait juste être sympa. Intermarché rembourse 50% de vos achats sur le rayon alimentation chien et chat en 2 bons d'achat. Et chaque semaine, profitez d'un nouveau rayon 50% remboursé en bon d'achat.
Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 28 avril, des 15€ et jusqu'à 25€ d'achat, offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité. Modalité sur intermarché.com.
Et si vous aviez l'occasion de rouler en première classe, au prix de la seconde ? DS Automobile présente le surclassement en DS7 Crossback d'occasion. Car si ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage, pourquoi vous contenter de bien quand vous pourriez avoir mieux ? Jusqu'au 30 avril, vivez une expérience de conduite premium à bord d'un DS7 Crossback E-Tense hybride rechargeable d'occasion à partir de 390€ par mois. Surclassez-vous avec DS Certified. Voir conditions sur dscertified.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. En général, la machine à café, c'est la bonne excuse pour faire des pauses au boulot. Mais là, avec votre machine Nescafé...
Oui.
Eh ben, j'ai aussi une excuse pour faire des pauses quand je télétravaille.
Et ça fait du bon café. Du 23 avril au 4 mai, pendant l'opération Nos Super Pouvoirs d'Achat, la machine Nescafé Dolce Gusto Minimi et ses 60 capsules offertes avec 20€ de réduction est à 39,90€. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Garantie 2 ans, modalités et magasins participants sur www.e.leclerc.
Il y a une Opel pour chaque. Chaque. Et chaque. Parce qu'il y a une Opel pour chaque métier. Avec 20 systèmes d'aide à la conduite et jusqu'à 420 km d'autonomie en électrique, découvrez la nouvelle gamme de véhicules utilitaires Opel, disponible en version thermique et électrique. Et pendant les journées Opel Pro, profitez de 5 ans de garantie offerte. Rendez-vous chez votre concessionnaire Opel pour trouver le partenaire de vos ambitions. Garantie constructeur de 2 ans plus 3 ans d'extension offerte jusqu'au 30 avril. Détails sur opel.fr.
Europe 1, le journal permanent.
Les contrôleurs aériens en grève jeudi, journée noire en vue dans les aéroports avec 75% des vols supprimés à Orly, 65% à Roissy, des retards également à prévoir. Un autre préavis de grève des contrôleurs du ciel a déjà été déposé pour le pont de l'Ascension. La chef de file des députés LFI Mathilde Panot, convoquée par la police pour apologie du terrorisme, en cause la publication le 7 octobre d'un communiqué du groupe LFI qui faisait un parallèle entre l'attaque du Hamas et l'intensification de la politique d'occupation israélienne dans les territoires palestiniens. 5 migrants morts la nuit dernière après avoir tenté de traverser la Manche depuis Vimereux dans le Pas-de-Calais. Au moins 15 personnes ont perdu la vie depuis le début de l'année en tentant de traverser la Manche. Aujourd'hui, le Parlement britannique a approuvé un projet de loi qui permet l'expulsion vers le Rwanda des demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni. quelle que soit leur origine, le gouvernement conservateur espère débuter les expulsions d'ici 10 à 12 semaines. La plus petite organisation patronale, l'UDP, a trouvé un terrain d'entente avec plusieurs syndicats sur le CETU, le compte épargne-temps universel, et sur les reconversions professionnelles. Accord sans le MEDEF, c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Le CETU doit permettre à tous les salariés d'épargner des congés. Et puis le foot, Olivier Giroud rejoindra le Los Angeles FC cet été. À 37 ans, le meilleur buteur de l'équipe de France était en fin de contrat avec l'AC Milan. Il s'est engagé pour un an et demi avec le club californien.
19h-20h, Europe 1 soir.
Il est 19h34 sur Europe 1. Face aux violences entre jeunes, les autorités sont à la recherche de solutions. Hier, Gabriel Attal prônait les internats. Aujourd'hui, Robert Ménard, maire de Béziers, annonce un couvre-feu pour les moins de 13 ans dans plusieurs quartiers. Mesure mise en place également en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre. Mais ça n'est pas tout. Bonsoir Christian Estrosi.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être en direct sur Europe 1. Vous êtes le maire Horizon de Nice et vous aussi, vous croyez aux vertus du couvre-feu puisque vous comptez le réinstaurer pour les moins de 13 ans. Je dis réinstaurer parce que ça a déjà été le cas dans votre ville de 2009 à 2020. Ça veut dire que c'est efficace. Vous en avez tiré quel bilan ?
Nous en avons tiré selon les périodes. C'est-à-dire selon que nous avions des préfets proactifs ou non, et nous avons eu trois préfets différents pendant cette période, donc des préfets qui mobilisaient la police nationale, puisque il faut savoir que pour interpeller un mineur sur la voie publique, sur un arrêté du maire, la police municipale n'a pas la faculté de le faire, mais seule la police nationale la faculté de le faire. Eh bien, lorsque les préfets suivaient l'arrêté du maire, ça a toujours démontré son efficacité. À partir de 2020, nous avons modifié notre arrêté pour qu'il s'adapte au couvre-feu de la période du Covid jusqu'en 2022. Et naturellement, avec les violences des mineurs auxquelles nous assistons aujourd'hui, nous réactivons cet arrêté.
Et vous aviez constaté concrètement une baisse des délits ?
Nous avions constaté d'abord une baisse des délits, mais surtout qu'il y avait beaucoup trop de mineurs, et nous avions fait régresser grâce à cela cette présence. Pardonnez-moi de vous dire qu'un gamin de 13 ans, à 23 heures, sa place est chez ses parents et nulle part ailleurs.
Mais justement, comment ils réagissent les parents en apprenant que vous réactivez votre couvre-feu ? Est-ce qu'ils sont solidaires ? Est-ce qu'ils vous suivent ou est-ce qu'ils font de la résistance ?
Non, une grande majorité d'entre eux considèrent que de pouvoir, là où ils sont quelquefois dépassés par un ado un peu dur et réfractaire, aidé par cette décision du maire, pour pouvoir leur faire comprendre, là où ils ont du mal habituellement, que sortir peut les conduire à être confrontés à de graves difficultés, à se faire interpeller. Donc une immense majorité de parents qui, je dirais, ne sont pas forcément démissionnaires, mais ont besoin d'être accompagnés, sont au contraire extrêmement satisfait de cette mesure.
Alors à Béziers, les parents pourront être poursuivis en justice. Est-ce que c'est aussi le cas à Nice ?
Moi, je distinguerai deux catégories de parents. Il y a les parents démissionnaires, permissifs, et naturellement, lorsqu'il y aura récidive, eh bien, nous souhaitons pouvoir imposer des stages de parentalité. Je suis en train d'ouvrir une maison de parents vigilants où il y aura des éducateurs, où il y aura des médiateurs, où il y aura des enseignants, où il y aura des personnels d'accompagnement pour pouvoir tout simplement, pour ceux qui sont très permissifs, apprendre un peu leur métier de parent. Et en cas de refus, j'envisagerai de les sanctionner financièrement en leur faisant perdre les avantages octroyés par la ville, sur la participation de licence, sur des tarifs préférentiels, sur un certain nombre d'activités, sur des aides culturelles, etc., où on se dit, au fond, on peut bénéficier de tout, être laxiste et ne pas nous préoccuper de savoir si notre gamin est dehors ou pas.
Alors, revenons au couvre-feu. Je rappelle que selon le sondage Europe 1 JDD Paris Match, il y a 67% des Français qui sont pour imposer un couvre-feu à 23h pour les mineurs dans tout le pays. C'est donc une très très large majorité. Je voudrais qu'on prenne en ligne Marina, qui nous appelle des Bouches-du-Rhône. Bonsoir Marina.
Bonsoir.
Est-ce que vous pensez que c'est la bonne solution ?
Alors, écoutez, moi, généralement, je suis quand même d'avis de suivre toujours M. Ménard ou M. Estrosi pour beaucoup de bonnes idées. Cependant, je trouve quand même que sur le principe, ce couvre-feu est une fausse bonne idée. Alors, je vais l'expliquer brièvement pourquoi, parce que je trouve qu'on a quand même, il y a eu beaucoup d'événements, on a succédé à des confinements, des couvre-feux déjà instaurés, qui n'ont cependant pas empêché d'avoir des émeutes dans des quartiers, différents soient-ils, cela n'a pas empêché les émeutes. Je trouve que, en fait, cette solution, est-ce qu'elle va déplacer le problème ? Je pense que oui. Est-ce que la délinquance va s'arrêter ? Je ne pense pas. Malheureusement, ce couvre-feu s'applique à des mineurs de moins de 13 ans. Mais il y a des mineurs de moins de 13 ans, mais il y a aussi des mineurs de 14, 15 ans, 16 ans, qui sont encore sous l'autorité parentale et qui, malheureusement, tombent parfois entre les mailles du filet parce que on ne peut pas toujours les poursuivre pénalement. Alors, je pense qu'en local, effectivement, il y a des choses à faire et c'est une bonne idée, mais pas seulement à moins de 13 ans, parce que comme l'a dit et rappelé M. Estrosi, en fait, la question, c'est surtout l'autorité parentale. Encore une fois, il y a l'autorité parentale.
Christian Estrosi, qu'est-ce que vous répondez à Marina qui pose une question importante? C'est que le couvre-feu, c'est pour les moins de 13 ans, mais il y a des délinquants, évidemment, plus âgés.
Alors, je donne raison à Marina sur un certain nombre d'analyses qu'elle fait. C'est pas cette mesure qui va régler tous les problèmes. Je rappelle qu'à Nice, nous n'avons pas eu d'émeutes urbaines pendant la période des émeutes urbaines, parce que nous avons un grand nombre de mesures de prévention, avec le Conseil des droits et devoirs des familles et les médiations et les rappels à l'ordre que je prononce. Avec l'instauration d'amendes administratives qui se rajoutent à des amendes judiciaires lorsqu'il y a des enfants qui cassent et qui détruisent le bien public, avec la convocation d'enfants et parents avant expulsion que nous demandons au tribunal dans les logements sociaux lorsqu'il y a des dégradations répétées, avec les mesures que nous prenons au sein des écoles, et où nous luttons aussi avec le rectorat dans une convention sur les problèmes de harcèlement et d'autres mesures qui se rajoutent à tout cela.
Mais sur les enfants qui traînent dehors, la question des enfants qui traînent.
Sur les enfants qui traînent dehors, Marina a raison sur les tranches d'âge supérieures. Et là, je lance un travail de fond avec le procureur de la République et le préfet, pour voir si sur certains secteurs, je pense notamment à ceux qui sont touchés aujourd'hui par les filières de trafic de drogue ou les caïds qui sont souvent hors de portée et quelquefois à l'étranger, utilisent des filières de mineurs qui ont 14, 15, 16 ans comme armes par destination en quelque sorte, avec des règlements de compte entre filières. Nous ne pourrions pas avoir des arrêtés spécifiques sur ces secteurs-là pour des tranches d'âge plus élevées.
Est-ce que finalement ça ne sert pas aussi à rassurer les habitants de prendre ce genre de mesures ?
Je pense que les habitants ont besoin de savoir que tous ceux qui, malheureusement, ne parlons pas des 13 ans, mais il y a les 13 ans qui traînent dans la rue, qui ne sont pas forcément des délinquants, mais dont je considère qu'ils n'ont pas à traîner dans la rue. Bon. Et puis, il y a ceux qui, malheureusement, tombent très tôt dans une sorte de violence, sont enrôlés par les grands frères, comme on dit quelquefois, et instrumentalisés par des adultes, ou par des adolescents plus âgés, et dont un grand nombre de nos concitoyens subissent des conséquences à la fois corporelles, des sacs arrachés, voire des biens personnels qui sont détruits ici ou là. Et naturellement, notre premier devoir, si je rajoute à tout cela tout ce que nous faisons avec notre réseau de caméras de vidéosurveillance, notre centre de supervision urbain, les boutons d'alerte que nous disposons dans toute la ville, notre police municipale qui possède le premier effectif de France et qui est primo intervenante lorsqu'il y a flagrant délit, ben, c'est un tout. Voilà, et cette mesure que nous prenons aujourd'hui avec le couvre-feu pour les mineurs est une mesure de plus qui est de nature à rassurer nos habitants. Je vous rappelle que Nice est dans le classement de votre confrère Le Parisien, la ville où l'insécurité est la plus faible des villes de plus de 50 000 habitants, là où Paris est en 106e position, Bordeaux en 110e, Marseille en 116e Lille en 118e position.
Vous êtes fier de votre ville et vous avez raison, mais finalement, si jamais vous n'aviez pas, si vous n'aviez pas pris cet arrêté pour réinstaurer le couvre-feu, est-ce que vous auriez les moyens d'avoir des policiers la nuit ? Parce que c'est aussi un problème de moyens.
Aujourd'hui, les moyens que je demande, c'est simplement que la police nationale, sur instruction du ministre de l'Intérieur et du préfet, permettent à ma police municipale de pouvoir, après interpellation, raccompagner dans leur foyer les mineurs que nous aurons interpellés parce qu'ils dépassaient l'heure prévue par l'arrêté entre 23h et 6h du matin.
Oui, vous n'êtes pas seul dans cette histoire et vous avez besoin de soutien. On vous remercie beaucoup, Christian Estrosi, maire de Nice, d'avoir été en direct sur Europe 1. Un grand merci également à Marina qui nous a appelés et on vous souhaite une très bonne soirée.
Europe 1 Soir.
Il est 19h45, vous le savez, Pascal Pro vous propose deux rendez-vous chaque jour. D'abord l'heure des pros de 9h à 9h30 avec codiffusion sur CNews. Et puis de 11h à 13h, vous avez la parole dans Pascal Pro et vous. Demain, avis au bec sucré, Pascal reçoit le docteur Réginald Allouche pour son livre « Sucre, l'ennemi public numéro 1 ». Nous, dans un instant, on va parler de cette décision très critiquée en Grande-Bretagne. Les demandeurs d'asile illégaux seront expulsés vers le Rwanda.
Bonjour, c'est Stéphane Bern. On se retrouve demain de 15h à 16h dans Historiquement Vôtre sur Europe 1.
Historiquement Vôtre.
Je vous raconte une pionnière noire américaine longtemps oubliée qui a donné de la voix guitare à la main dans les églises autant que dans les clubs de jazz et les salles de concert. La véritable histoire de Sister Rosetta Tharpe, l'inventrice du rock'n'roll.
Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern.
C'est demain de 15h à 16h sur Europe 1.
Et si vous aviez l'occasion de rouler en première classe au prix de la seconde ? DS Automobile présente le surclassement en DS3 Crossback d'occasion. Car si ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage, pourquoi vous contenter de bien quand vous pourriez avoir mieux ? Jusqu'au 30 avril, vivez une expérience de conduite premium à bord d'un DS3 Crossback Items 100% électrique d'occasion à partir de 199€ par mois. Surclassez-vous avec DS Certified. Voir conditions sur dscertified.fr. Pensez à covoiturer.
Visio Confucius, tu vois, toi qui travailles à ton compte, la mutuelle de demain te permettra d'être indemnisé si t'es arrêté.
Ok, ben ta mutuelle de demain m'aurait bien servi aujourd'hui en fait, parce que là, mes clients, ils comprennent rien à ce que je dis.
Être obligé de travailler quand on est arrêté, c'est du passé. Avec Aesio Mutuelle, les professionnels bénéficient de garanties santé ou prévoyance adaptées à leur statut, comme l'indemnisation perte de revenus en cas d'arrêt de travail. Aesio Mutuelle, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Informations et conditions en agence ou sur aesio.fr.
À tous ceux qui, après le repas, se transformaient en artistes avec la cire des Babybel. Je vous présente un cow-boy qui est tout rouge. C'est conceptuel. Papa, regarde, un diplodocus, mais tout rouge. Et un nez de clown.
Oui, bah c'est très rouge, quoi, surtout.
Chez Intermarché, pour l'achat d'un produit de la marque Babybel, le second est à moins 60%. Et c'est aussi au drive et en livraison.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 28 avril, sur le moins cher des deux, Origine France, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus.
Europe 1 Soir, 19h-20h,
Hélène Zélani.
19h48, on va maintenant parler immigration avec cette mesure qui doit entrer en vigueur au Royaume-Uni et qui fait grand bruit. Le Parlement a adopté aujourd'hui une loi historique, selon les mots du Premier ministre Rishi Sunak. Elle prévoit d'expulser au Rwanda les demandeurs d'asile entrés illégalement dans le pays, quelle que soit leur origine. Et on en parle avec vous, Maître Philippe Fontana. Bonsoir.
Bonsoir madame.
Vous êtes avocat au barreau de Paris, auteur du livre « La vérité sur le droit d'asile » aux éditions de l'Observatoire. Alors, ce projet, il prévoit d'expulser des migrants illégaux vers le Rwanda, je l'ai dit, hein, quel que soit leur pays d'origine. Comment est-ce que c'est possible ?
Bon, d'abord, ce n'est plus un projet, c'est cette loi.
Ça a été voté, tout à fait.
Voilà, le Safety of Rwanda a été voté au petit matin. Et c'est vrai, c'est une innovation juridique parce que, jusqu'à présent, toute personne, comme en Europe continentale, qui se présentait au Royaume-Uni pour solliciter l'asile, obtenait un titre de séjour le temps que sa demande soit examinée. Alors que l'innovation, c'est que toute personne qui rentre en séjour irrégulier au Royaume-Uni va être non pas expulsée, mais va être contrainte d'aller au Rwanda pour que sa situation soit examinée au Rwanda. Donc sur les 30 000 demandeurs d'asile, eh bien, théoriquement, puisque la plupart sont, l'immense majorité sont en situation régulière, c'est vrai que la plupart devront être acheminés, reconduits vers le Rwanda.
Et pourquoi le Rwanda ?
Ouais, parce que c'est un pays qui est devenu sûr, d'où le nom de cette loi. En fait, en matière d'asile, il faut bien comprendre que la personne qui s'estime persécutée part d'un endroit A, d'un pays A, pour aller vers un pays B. Mais si entre les deux pays, il y a des pays qui sont sûrs, pourquoi ne s'arrêterait-elle pas dans ces pays pour solliciter l'asile ? Prenons le cas d'un Afghan.
Pour des raisons économiques, peut-être, tout simplement.
Mais écoutez, il y a un véritable dévoiement d'asile. Dans ces cas-là, il faut plus parler de demande d'asile, il faut parler de contournement de certaines personnes qui habitent dans des pays qui n'ont pas la même évolution économique ou la même évolution au niveau de la sécurité que l'Europe et que le monde occidental. Et dans ces cas-là, il faut appeler un chat un chat. Donc, par exemple, un Afghan qui se présente en France, 60% des demandes sont refusées. On pourrait imaginer qu'il sollicite l'asile au Pakistan, on pourrait imaginer qu'il sollicite en Iran, on pourrait imaginer qu'il le sollicite dans les pays du Golfe. Or, la plupart des Afghans viennent en France, viennent en Allemagne et viennent au Royaume-Uni. La proportion est devenue de plus en plus importante. Cette année, il y a eu quand même 350 000 demandes d'asile en Allemagne et il y en a eu 167 000 en France. Donc les chiffres sont de plus en plus importants, même s'il y a un artifice de la part de la juridiction comme la Cour nationale du droit d'asile pour faire augmenter la demande d'asile en France, il y a quand même l'immense majorité dont la demande est refusée.
Donc vous pensez que ça peut être une bonne solution, parce que d'ailleurs l'Italie a aussi conclu un accord du même genre avec l'Albanie.
Alors justement, on peut parler de l'Albanie. L'année dernière, il y avait 45 000 demandes d'asile au Royaume-Uni. En 2022. Et l'année dernière, il n'y a eu plus que 30 000. Pourquoi ? Parce que le Royaume-Uni a obtenu la création d'un accord de coopération avec l'Albanie, justement pour que les pseudo-demandeurs d'asile n'arrivent pas jusque sur son territoire. Donc là encore, il y a les deux piliers, c'est le pays tiers sûr, donc le pays d'acheminement, le pays de passage, il est sûr dans ces cas-là, ils ne vont pas jusqu'à leur destination, qui est l'Europe continentale ou le Royaume-Uni. Et ensuite, il y a la coopération. L'Italie, non seulement a mis en place un accord de coopération avec l'Albanie, mais aussi avec la Tunisie. Et j'espère que la France suivra cette même voie.
Et quel serait le pays que pourrait choisir la France pour cet accord ?
Bon, on peut éventuellement penser au Niger. Il y a des camps qui sont gérés par le HCR et la France d'ailleurs fait de la réinstallation, c'est-à-dire qu'une fois que les migrants au Niger ont obtenu un accord du HCR sur leur véritable situation de réfugiés, dans ces cas-là ils sont acheminés en France, mais ils pourraient être acheminés n'importe où. L'important, c'est que la demande d'asile soit présentée en dehors du territoire national ou en dehors de l'Europe. Or, aujourd'hui en France, c'est impossible parce que, comme dans de multiples domaines, mais spécialement en matière d'immigration, vous avez le Conseil constitutionnel qui s'y oppose. Et donc, vous êtes en place vous avez le véritable gouvernement des juges qui est en place, ce qui fait qu'aujourd'hui, si le législateur français voulait suivre la voie britannique, il se heurterait une nouvelle fois à la jurisprudence du Conseil constitutionnel et aussi du Conseil d'État. Je vais vous donner un exemple sur le rôle du Conseil d'État. Il y a une directive qui prévoit justement la notion de pays tiers sûr. Et donc, dans ces cas-là, s'il avait été adopté en France, eh bien, une personne qui aurait transité par un pays tiers sûr, sa demande d'asile aurait été déclarée immédiatement irrecevable. Donc, nous avons mal transposé cette directive. Il y a beaucoup de moyens juridiques de contourner le dévoiement du droit d'asile. Et j'aimerais que cette question trouve un écho dans la campagne électorale des élections européennes, parce que, comme c'est une compétence partagée, aujourd'hui, c'est au Parlement de l'Union européenne que les choses se passent.
Mais si on revient sur la décision qui a été adoptée par le Parlement britannique, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Imaginons que tous ces migrants qui demandent un droit d'asile sont transférés au Rwanda. Si on refuse le droit d'asile, qu'est-ce qui se passe pour eux ? Ils sont renvoyés dans leur pays ? Qu'est-ce qui se passe ?
Ils sont déboutés. Ensuite, c'est aux autorités rwandaises de trouver une solution. Et est-ce qu'elles vont... Je ne pense pas. Il est impossible de renvoyer une personne dans son pays d'origine si elle craint une persécution. Mais si elle ne craint pas la persécution, dans ces cas-là, tout est ouvert. Bon, la difficulté en France, c'est qu'il n'y a que 2% des OQTF qui sont appliqués. C'est-à-dire, si une personne, par exemple, l'OFPRA ne lui accorde pas l'asile, si elle perd devant la Cour nationale du droit d'asile, dans ces cas-là, elle doit être reconduite à la frontière. Elle bénéficie d'une obligation de quitter le territoire français. Or, la difficulté, ce sont les chiffres donnés par la Cour des comptes. Et au début de l'année, seulement 2% des OQTF sont exécutés en matière d'asile. Et c'est vrai qu'il y a des nationalités comme les Afghans, les Syriens, avec lesquels la France n'a plus de relations diplomatiques avec leur pays d'origine. Or, on sait très bien aujourd'hui qu'il n'y a plus de guerre civile en Syrie. Il y a encore quelques poches, effectivement, qui peuvent poser problème. Mais pourquoi un Syrien, s'il est soumis à un conflit de haute intensité dans une partie de son territoire, n'irait pas dans une autre partie de son territoire? Donc, vous voyez, ce sont des choses qui sont... Il ne faut pas les traiter de manière idéologique, comme certaines associations qui sont quand même subventionnées à hauteur de 1 milliard d'euros par an en France le perçoivent. Il faut le considérer de façon très pratique. Toute personne qui est persécutée dans son pays d'origine, eh bien la France lui doit effectivement ce droit d'asile. J'aimerais que ça soit réservé aux francophones et aux francophiles, mais ça, vous voyez, ça serait une autre... une autre part de la question. J'espère qu'un jour on y viendra, parce que est-ce qu'un Afghan, même s'il est persécuté dans son pays d'origine, doit faire appliquer la charia en France, comme on l'a vu récemment à Bordeaux?
Ça, c'est aussi une autre question.
C'est une question importante pour nos compatriotes.
Bien sûr. Maître Fontana, est-ce que vous croyez à l'aspect dissuasif de ce genre d'annonce aussi? Parce que, évidemment, ça va finir par se faire, même s'il y a beaucoup d'opposition. Ça a mis 2 ans pour être voté. Et là, aujourd'hui, l'ONU proteste, beaucoup d'ONG protestent en Angleterre. Admettons qu'ils arrivent à, en effet, expulser des migrants demandeurs d'asile. Est-ce que finalement, vous pensez que ça peut dissuader d'autres migrants de venir ?
Certainement, parce qu'encore une fois, il faut bien comprendre que l'immense majorité de la demande d'asile est fondée sur des considérations économiques.
Mais oui.
Donc si la personne sait qu'elle va entamer un long voyage, périlleux d'ailleurs, c'est vrai que les personnes qui traversent la Méditerranée à leurs risques et périls, il y a déjà eu 30 000 morts.
Il y a encore eu un drame ce matin avec 5 morts.
Il y a des drames tous les jours. Donc non seulement la dissuasion est efficace pour les pays d'accueil, mais elle est aussi efficace pour les migrants. Parce qu'encore une fois, la vraie question qui vaille est celle de l'homme, comme disait le général de Gaulle. Il faut quand même toujours concevoir la politique avec la part d'humanité qui est nécessaire.
Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup, Maître Philippe Fontana, d'avoir été en direct sur Europe 1, avocat au barreau de Paris. Et je rappelle le titre de votre livre, La vérité sur le droit d'asile, aux éditions de l'Observatoire.
Europe 1 Soir.
Merci à vous tous de nous avoir suivis sur Europe 1. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel Europe 1 Soir et je vous souhaite une très bonne soirée avec La France Bouge et Elisabeth Assayag. Bonsoir Elisabeth, quel est le programme ?
Bonsoir Hélène Zellani. Ce soir, l'emploi au cœur de la France bouge. Je reçois le directeur général de Manpower France, mais aussi le responsable recrutement jeunesse de l'armée de terre, le colonel Stanislas Rouquayrol. Ça recrute, ça cherche des talents, ça cherche à fidéliser. On en parle dans La France bouge. À tout de suite.
Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip large Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détails et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
C'est si bon.
Limousine.
À l'aubergine.
À la bénédictine.
À la poitevine.
À la girondine.
En mousseline.
Chez Micheline.
En mandarine.
Façon Justine.
En gélatine.
À la cantine.
En tartine.
En tagine.
En verrine.
So bling bling.
En smoking.
En jogging.
Chez la voisine.
De la grande cuisine.
Chez nous le bœuf. Qu'il y en a pour toutes les bouches.
Peugeot. Vous connaissez le dicton « On n'a jamais deux fois l'occasion de faire une première bonne impression ». Et quand on est pro, la première impression, c'est aussi son véhicule. Alors venez vite découvrir la nouvelle gamme utilitaire Peugeot. Démarquez-vous avec son design distinctif et sa modularité exceptionnelle. Et avec près de 20 systèmes d'aide à la conduite, vous arriverez chez vos clients dans les meilleures conditions pour faire une deuxième bonne impression. Et jusqu'au 30 avril, Peugeot vous offre 3 mois de loyer pour tout achat d'un nouvel utilitaire en crédit bail. C'est le moment d'en profiter.
Voir conditions en point de vente et sur Peugeot.fr.
Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Même vous, Corentin.
Moi ?
Oui, vous ! Car du 23 au 29 avril, pendant l'anniv Netto, le paquet d'essuie-tout absorbant double épaisseur Netto est